cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Au bonheur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné !
En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission du mercredi 2 juin 2021. À cette occasion, je reçois Pascal Mériot, directeur de l'association On a marché sur la bulle qui s'occupe des rendez-vous de la bande dessinée. Et nous allons ensemble pendant une demi-heure discuter de ce 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui commence le week-end qui vient et qui se prolonge sur tout le mois de juin. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien, je suis serein, tout se passe pour le mieux, tout est simple, tout n'est que calme, luxe et volupté.
Détendu, tranquille, prêt pour le début, l'ouverture.
Prêt et tout ce qui ne sera pas prêt, le public l'ignorera.
Oui.
Il ne saura pas ce qu'on avait rêvé et qui peut-être ne sera pas présent dans la halle. Mais je pense que ce qu'il y a dans la halle sera de nature à satisfaire le plus grand nombre.
Donc, on peut peut-être commencer par parler de cette association qui porte en fait le festival et bien d'autres. Peut-être que tu peux parler un petit peu de On a marché sur la bulle.
Oui, ce n'est pas qu'une structure administrative, oui. Loin s'en faut. Aujourd'hui, même si dans le pôle BDO de France, puisque c'est comme ça qu'on le qualifie désormais, il y a 18 personnes qui travaillent à plein temps, et là actuellement on est peut-être 45, à être sur le pont entre les médiateurs, les monteurs, la régie, la fabrication générale. La dimension bénévole est toujours là. Je fais partie des premiers créateurs, des premiers bénévoles. Mon président est un des créateurs de la première heure, bénévole lui aussi, et là il travaille sur deux expositions cette année. Donc même si il y a eu ce trou là dû à la pandémie, dû au fait qu'on ne s'est pas vu beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, que le peu de réunions qu'on a fait en Zoom ne sont pas très propices à s'extasier sur de la bande dessinée ou à fabriquer des objets culturels ensemble, eh bien on voit là qu'il y a un vrai appétit, une vraie envie de se retrouver, de participer à cette manifestation. Aujourd'hui, la programmation du festival est travaillée par une cellule artistique composée de bénévoles élus, et ce sont eux qui ont voix au chapitre, ce sont eux qui in fine vont décider de l'auteur qui fait l'affiche, de la programmation, des expositions, ou d'écarter telle expo peut-être qui ne serait pas cohérente avec les autres, où on mange au restaurant, la couleur du t-shirt, enfin, ces choses merveilleuses qui font une vie associative. Eh bien, tout ça, c'est bien présent 25 ans plus tard, même si aujourd'hui, clairement, Amiens a ce statut d'autre ville de la bande dessinée.
Alors, On a marché sur la bulle, c'est aussi des expositions tout au long de l'année. Il y a aussi une maison d'édition, etc. C'est vraiment quelque chose de très vaste, voilà. Sur la bande dessinée.
Voilà, il y a cette question du festival. Il y a la dimension éducative avec un service éducatif composé de 6 personnes à plein temps qui interviennent pour 4 d'entre eux sur le terrain très régulièrement, qui font le tour de la région Hauts-de-France. Hein. On travaille avec des lycées à Dunkerque ou à Saint-Quentin ou à Creil. Et il y a ensuite une dimension exposition, création et diffusion d'un grand nombre d'expositions et d'outils d'animation dédiés aux livres de bande dessinée. Et puis il y a la dimension centre de ressources aussi, qui fait que n'importe qui ayant un projet sur la bande dessinée peut nous appeler et on essaye d'améliorer, peaufiner, donner à réfléchir ou offrir des raccourcis pour que le projet puisse se développer plus vite, plus fort. Pour ne prendre qu'un petit exemple, actuellement on travaille avec les Beaux-Arts de Calais, le musée des Beaux-Arts, pour monter une grosse exposition en avril 2022 sur le dragon et la bande dessinée. Dragon et animaux fantastiques dans la bande dessinée, en lien bien évidemment au célèbre dragon de Calais. Ce dragon articulé qui anime la ville là depuis 2 ans. Donc on est vraiment dans toutes ces dynamiques, les dynamiques de territoire, les dynamiques de proximité, et puis toujours cette idée de la médiation, mettre des gens en contact avec des livres de qualité.
Alors venons-en à notre sujet de l'émission, le 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Alors, il débute ce 5 et 6 juin et, comme on le disait en début d'émission, se prolonge chaque week-end de juin. Donc c'est vraiment, on a quand même du temps pour pouvoir venir voir cette exposition à la Elfrécinet, toujours.
Toujours.
Donc bon, cette année, compte tenu de effectivement les conditions sanitaires, il faudra juste réserver, mais on en parlera un petit peu plus à la fin. Alors, on peut peut-être commencer par qui a fait l'affiche de cette année.
Alors, on est particulièrement fiers que Cyril Pedrosa ait accepté de réaliser cette affiche. En 2003, fans que nous étions de sa première série, la série Ring Circus, on avait monté une exposition. On était là dans l'espace Camille Claudel, au sous-sol de la bibliothèque universitaire du pôle cathédrale. Et puis, avec nos moyens de l'époque, déjà, il y avait une carriole de cirque, il y avait un tour de cirque, il y avait une mise en volume de son univers et puis des pages. Mais là, on se retrouve avec un auteur qui, 18 ans plus tard, a sorti depuis au moins trois œuvres majeures, trois chefs-d'œuvre, n'ayant pas peur des mots, enfin, c'est comme ça en tout cas que je les ressens et que j'ai reçu ces livres. On peut parler de Trois ombres, une bande dessinée, un roman graphique incroyable, à la fois extrêmement dur et extrêmement puissant sur la question de la perte. Un livre qui a été traduit aux États-Unis et que dont Hollywood avait acheté le scénario. Après, le film ne s'est pas fait, mais c'est pour dire quand même le niveau de ce travail. Ensuite, il a sorti Portugal, une réflexion formidable sur ce que c'est de vieillir, se poser des questions sur ce qu'on a fait de sa vie, sur d'où l'on vient. Et puis, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, L'âge d'or, cette bande dessinée, ce diptyque sorti chez Dupuis en 2019 et dont le tome 2 est sorti en octobre 2020. Une aventure, une fresque moyenâgeuse, féministe et politique à la fois. Une utopie en marche, une réflexion sur le monde comme il va, et avec un dessin, avec une puissance du dessin absolument inouïe, une maturité, une apparente facilité. Bref, Cyril Pedrosa pour l'affiche, c'est un peu la classe, et c'est d'autant plus la classe que la Maison de la Culture d'Amiens a décidé de monter une grosse exposition aussi sur Cyril Pedrosa et sur l'âge d'or en particulier. Donc on a 400 mètres carrés d'âge d'or avec tous les angles possibles et imaginables, et dans la halle, il y a une exposition cette fois-ci rétrospective. Si on connaît une des bandes dessinées de Pedrosa, on va avoir envie d'acheter toutes les autres.
Donc tu parlais de cette exposition à la Maison de la Culture qui est en ce moment.
Oui, elle va durer jusqu'en octobre. Cyril Pedrosa reviendra d'ailleurs à la rentrée pour un happening. C'est vraiment révélateur de ce qui est devenu le festival hein, avec ses partenaires culturels. On a plaisir à jouer avec les uns et les autres, à aller jouer à des contraintes d'oubapo, de bande dessinée sous contrainte, donc avec les gens du cirque. On a plaisir évidemment à aller dans les réseaux des bibliothèques pour monter des expositions interactives jeunesse ou moins jeunesse. Comme toute la programmation, les 7 expositions qui sont dans le réseau cette année. On a plaisir à jouer bien évidemment aussi avec le musée de Picardie cette année, avec cette double exposition, un volet sur le festival et un volet au musée sur archéologie et bande dessinée avec le Louvre. Il y a vraiment cette joie de diffuser notre amour de la bande dessinée dans la ville et également d'interagir. On n'est pas juste en train de coloniser qui que ce soit, mais évidemment les gens sont chez nous, on est chez eux. On regarde, par exemple, cette exposition archéologie et bande dessinée, si on peut la définir. Le volet du musée, ce sont les objets du musée qui accueillent la bande dessinée, et sur le festival, c'est la bande dessinée qui accueille la dimension archéologique. Donc ce regard croisé est vraiment extrêmement riche.
Alors, tu as commencé à parler des différentes expositions. Donc, il y a évidemment donc, cette exposition Chasse d'histoire et d'archéologie de la bande dessinée qui a été faite en collaboration donc, avec le Louvre et le musée de Picardie. Comment elle s'est articulée, par exemple, là,
Comment on arrive à se dire, tiens, une chose pareille. Déjà, il y a une dizaine d'années, le Louvre a lancé une collection liée à la bande dessinée. Le Louvre et la bande dessinée, ils l'ont fait en coédition avec un éditeur assez formidable qui s'appelle Futuropolis. Les deux premiers auteurs à qui ils ont confié les clés du musée pour en faire ce qu'ils voulaient étaient aussi des auteurs formidables. Nicolas de Crécy, qui a fait Période glaciaire, puis l'extraordinaire Marc-Antoine Mathieu, qui a fait Les sous-sols du révolu. Alors, pourquoi l'extraordinaire Marc-Antoine Mathieu? Parce qu'il a fait l'affiche du festival en 2015 déjà, et qu'ensuite c'est lui qui a inventé le principe de scénographie qui est actuellement dans la halle Fraissinet. Les vagues blanches de 2, 3 et 4 mètres de haut, c'est lui qui est auteur de bande dessinée mais également scénographe, qui les a mis en place, qui les a dessinés, qui nous a dit exactement quel angle il fallait prendre et qui nous a donné quelques idées sur ce que pourrait être cette halle Fraissinet dessinée. Et Et donc cette collection a très bien fonctionné, continue à très très bien vivre. Il y a des auteurs plus incroyables les uns que les autres qui y ont travaillé. Stéphane Levallois, qui était comme un Léonard de Vinci contemporain, ou Jiro Taniguchi, le grand auteur de manga hélas disparu, qui a contribué également. Et donc en 2018, la petite galerie du Louvre, qui est l'endroit où l'archéologie dialogue avec les autres expressions artistiques, a décidé de faire un cycle archéologie et bande dessinée. Et donc le commissaire Fabrice Douard a monté cette exposition de liens entre planches et objets. Et puis, double rapport, d'une part, il y a le service archéologique d'Amiens Métropole qui avait des liens avec Fabrice Douard, qui nous a présenté. Oui. Et dans le même temps, il y a le directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, qui, dialoguant avec Laure Dallon, lui a proposé, puisqu'Amiens est une ville de bande dessinée, de monter aussi cette exposition. Donc, tous les feux étaient au vert, on s'est rencontrés, on s'est aimés passionnément, avec Fabrice, avec Laure, et avec ensuite Agathe Jagerschmidt, la nouvelle conservatrice du rayon archéologie, du département archéologie du musée de Picardie. Et on a travaillé ensemble sur la façon dont la bande dessinée pouvait rentrer dans les collections archéologiques, d'une part, et dont les pièces remarquables du musée de Picardie et du service archéologique d'Amiens Métropole pouvaient venir s'installer dans la halle Fraissinet.
Ah oui, c'est vraiment un beau projet collaboratif où finalement tout était ouvert, comme tu disais.
C'est exactement ça. Il y a vraiment un côté alignement des planètes qui a permis que la halle Fraissinet existe, parce que c'est un objet très singulier et ce qu'on fait dedans est très très singulier. Il faut avoir visité tous les salons de France pour savoir que depuis 2018, on a une chance inouïe, un terrain de jeu formidable, un espace unique dans lequel on puisse faire se tenir une manifestation culturelle ambitieuse et unitaire, unifiée, où la librairie est présentée avec le même soin que l'espace de signature, qui est présenté avec le même soin que l'espace d'animation et que les expositions, et où tout s'enchaîne de façon naturelle. Très souvent, dans le meilleur des cas, on a, je ne sais pas, comme à Saint-Malo par exemple, une zone dans laquelle on met toute la partie culturelle, et puis un grand barnum, il se trouve qu'ils ont une halle au blé, et que derrière ils ont des tentes, et dans lesquelles on met le commerce. Nous, on a vraiment une présentation de tout ensemble, et c'est vraiment un objet culturel unique sur la bande dessinée. Et nombreux sont les auteurs qui nous ont dit ne rien avoir jamais vu de comparable, et trouver ça particulièrement intéressant. Ça durera le temps que ça durera.
C'est vrai que là, maintenant, la scénographie que vous avez depuis quelques années, c'est quoi
2018.
2018, ouais. Maintenant, à l'halle Fraissinet, est assez impressionnante et nous permet de surfer sur les vagues un petit peu. Elles nous conduisent, en fait. Elles nous transportent tout au long de ces rendez-vous de la bande dessinée qui permet à tout à chacun de pouvoir déambuler et de voir tour à tour une exposition, une signature ou un auteur qui est en train de dessiner.
C'est vraiment l'intuition de Marc-Antoine Mathieu de nous dire un espace aussi rigide que celui-là, c'est quand même 24 mètres 30 de large sur 300 mètres de long, béton et tôle, puisqu'il y a ces volets roulants de partout qui permettaient aux camions de venir chercher les colis et les containers. Pour dialoguer avec ça, il a dit qu'il fallait de la courbe, et il avait raison. Et derrière, on imagine difficilement l'intensité du travail de la scénographe Alexandra Maringer, avec laquelle on travaille depuis 2019 en particulier. Donc voilà, c'est vraiment la deuxième grosse édition que l'on mène avec elle. Et qui, en fonction des intentions de chacun des commissaires d'exposition, trouve la façon d'intégrer les courbes et les lignes droites pour que tout ça soit harmonieux et donne cet effet dont on parle, c'est-à-dire cet effet de rebond. On va d'un endroit à l'autre et à l'autre et à l'autre et à l'autre.
Cette année, vous avez fait appel à un collectif local pour les construire ?
Oui, mais depuis 2018, on a eu cette chance inouïe, on n'aurait rien pu faire si la courte échelle n'existait pas, si on ne les avait pas rencontrés dans le bon timing, s'ils n'étaient pas aussi fous que nous. Je dis souvent que si aujourd'hui on est une petite vingtaine à plein temps à travailler sur la bande dessinée Amiens, c'est parce que je ne sais pas dire non. Et je crois que s'ils sont aussi nombreux artistes et artisans autour de la courte échelle aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Quand un projet paraît séduisant, ils y vont. Et forcément, à la fois on se met en danger, mais en même temps, on fait pousser de l'herbe quand on fait ça. Là où il n'y en avait pas nécessairement, on crée de l'activité et on crée de l'envie. Donc c'est une vraie rencontre, Flore, Choco, ce sont des gens aussi accessibles que charismatiques, aussi délirants que sérieux. Et il fallait ça pour lutter contre la halle, pour lutter avec la halle.
Alors on déambule dans cette halle, on peut découvrir tout un tas d'expositions créées par, on a marché sur la bulle, mais aussi créées par le pôle BD Hauts-de-France.
Oui, la plupart des expositions sont portées par ou des individus, c'est rare, souvent des binômes, des trinômes, qui peuvent être des binômes, par exemple, de bénévoles qui se motivent sur un projet. Ça peut être également des équipes mixtes avec des permanents et des bénévoles, ou ça peut être un projet amené par quelqu'un de l'équipe professionnelle, le tout étant, comme je le disais tout à l'heure, validé par la cellule artistique du festival pour des raisons de cohérence, pour qu'il n'y ait pas, je ne sais pas moi, trois expositions sur des guerriers vikings avec des grandes épées en même temps, ou huit expositions jeunesse, là où il n'y aurait rien pour le public adulte. Mais comme dans l'association, on a vraiment des adhérents qui sont extrêmement variés dans leurs goûts, dans leurs attentes, dans leurs enthousiasmes, on arrive à proposer à l'arrivée un plateau qui correspond à cette diversité.
Donc, on ne va pas toutes les énumérer, mais est-ce qu'il y en a quelques-unes qui t'animent, que tu as vraiment, que tu as envie de dire quelques mots dessus? Oh, ou...
ce sera cruel pour
ce
toutes
les
autres.
Ce serait cruel pour les autres.
Il y a 12, ouais. Selon la façon dont on compte, 11-12 expositions en majeur sur la manifestation. Il y en a des... Oui, mais dans ces 12-là, ce sont des projets qui ont été mûris, qui ont été développés et qui sont absolument passionnants. Mais Blue Giant, avec la série de Shinichi Ishizuka aux éditions Glénat, c'est la première fois que les éditeurs majeurs du secteur du manga nous font la confiance de nous mettre en lien directement avec un créateur qui a pu faire un dessin spécifiquement pour Amiens. Mm-hmm. Shinichi Ishizuka a fait un dessin pour les 800 ans de la cathédrale d'Amiens, aurait dû être présent l'année passée. Mm-hmm. Serait venu cette année s'il n'y avait pas eu le contexte Covid. Et donc, on peut montrer une exposition de planches manga. Et là, vraiment, c'est le changement de dimension, de paradigme depuis qu'on est à la Halle qui nous permet de travailler sur ce volet manga. Il y a une exposition collective qui s'appelle Libre point d'interrogation, mm-hmm. qui fait écho au livre Libre point d'exclamation d'Ovidi et d'Igli. Qui est un livre qui a beaucoup marqué sur la question des droits des femmes, le corps des femmes, la question des violences gynécologiques, l'insécurité dans la rue. Et là-dedans, cette exposition collective interroge justement cette représentation dans la bande dessinée. Donc on est à la fois sur une bande dessinée du réel, une bande dessinée qui questionne ce qui traverse actuellement la société, avec évidemment le mouvement MeToo et toutes les prises de conscience qui vont avec. Ces expos sont importantes, évidemment. On a une exposition qui pourrait paraître plus ludique, mais qui est importante aussi parce qu'on y passe des commandes auprès d'une vingtaine d'auteurs, dont, excusons du peu, Charlie Adler, le dessinateur de The Walking Dead, qui est venu à Amiens déjà, qui a exposé à Amiens, qui est devenu un ami de la famille et qui participe à une exposition expérimentale où on dessine sur trois enveloppes consécutives, des enveloppes à fenêtre, et il faut qu'il y ait un dialogue entre les dessins des enveloppes eux-mêmes, entre la première, la deuxième et la troisième, entre les fenêtres de la première, de la deuxième et la troisième, et entre l'extérieur de chacune des enveloppes et la fenêtre intérieure. Eh bien, autour de Thierry Martin, qui adore faire ça, et dont on va exposer aussi les travaux principaux, on a cette exposition de commandes avec des auteurs extrêmement variés qui se seront intéressés au médium. Et puis il y a toujours cette dimension jeunesse très importante chez nous, là, avec une trilogie d'expositions, Emma et Capucine, sur la danse, une exposition plus pour le lectorat jeune ado. Une exposition Biscotto sur un peu les marges de la bande dessinée jeunesse, avec des gens qui osent dessiner de façon non conventionnelle par rapport à la bande dessinée jeunesse traditionnelle, qui ont été très récompensés, en particulier au Salon de Montreuil, par des pépites. Et puis pour les tout petits, les toutous de Dorothée de Montfred, la formidable autrice de cette série extrêmement populaire, qui est à mi-chemin entre le monde de l'album jeunesse et le monde de la bande dessinée.
Alors, je te propose de faire une courte pause musicale et on revient juste après pour parler de tous ces auteurs et des rencontres que nous pouvons découvrir lors de ces 25e rendez-vous de la bande dessinée.
Sometimes in my bed I cry, to walk in it, but I try. Sometimes in my bed I cry, I just want to stay as fly. Sometimes in my bed I cry, to walk in it, but I try. Sometimes in my bed I cry, I just want to stay as fly. Okay. Ce rêve revient comme un spasme, seul comme Clancy dans l'espace, comme perdu au sein du vide. J'oublie le temps mais pas la vie. Au milieu de l'univers, je vois tous mon ange bleu vert. Je veux juste partir vers chez toi, je me
sans sève que dans tes bras. Le soir dans le lit tout est noir. Je vais gagner, j'essaie d'y croire. Comme Zeller, je brûle l'histoire. Je les repense chaque soir. Sometimes in my bed I cry. So won't be in the vote, I try. I try. Sometimes in my bed I cry. I just want to stay or fly. Sometimes in my bed I cry. So won't be in the vote, I try. I try. Sometimes in my bed I cry. I just want to stay or fly.
Face au miroir, elle veut voir une autre fille. Face à ses peines, elle rêve d'une autre vie. C'est pas si simple. La glace est brisée, elle est tout ce qu'elle est. Sous reflet, la rend triste. Jour après jour, son cœur se casse. Elle veut pas de leur aide, elle a bloqué le 15. Aiguille cassée, bloquée dans ce mood. Malheureusement, elle est bloquée dans ce monde et crée le sien. Ses journées sont longues, elle s'ennuie à l'école. Elle se retrouve en personne, elle vit dans le noir. Plus pour longtemps, elle s'ouvrira les veines quand elle ferme les persiennes. La vie est jolie quand on sait la voir. Trop de fois, l'amour l'a rendue aveugle. Son cœur s'est fermé quand ses larmes ont coulé. Peu à peu, son amour se transforme en colère. C'est l'air.
Ok, angst and culture's in the void. Sometimes in my bed I cry. So won't be in the vote, I try.
I try.
Sometimes in my bed I cry. I just want to stay or fly.
Fly.
Sometimes in my bed I cry. So won't be in the vote, I try.
I try.
Sometimes in my bed I cry. I just want to stay or
fly.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 FM dans l'émission En aparté. Nous discutons avec Pascal Mériot du 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui commence ce week-end et qui aura lieu jusque à la fin du mois de juin. Tous les week-ends, vous pouvez aller découvrir la Halle Fraissinet ainsi que tous les auteurs, tous les rendez-vous, toutes les expositions. On était donc en train de... On a vu un petit peu toutes les expositions qu'il pouvait y avoir sur ce festival. Parlons un petit peu d'un grand nombre d'auteurs qui sont présents donc, sur tous ces week-ends pour que tout le monde puisse aussi avoir l'occasion de rencontrer un grand nombre d'auteurs à chaque fois qui vient lors de ces week-ends.
Alors, historiquement, on a toujours eu un temps fort, qui est le premier week-end de juin, et un seul, un temps qu'on était à la bibliothèque universitaire. Il nous fallait arriver dans les locaux aussi tardivement que possible. En tout cas, dans les étages, on y arrivait le mercredi soir, pour une inauguration le vendredi soir, une ouverture des portes à 10h le samedi et une fermeture à 19h le dimanche. Et ce que le public ne savait pas, c'est qu'entre 19h et 21h, 21h30, on débarrassait à une vitesse assez hallucinante. 3 étages, 4 étages de bibliothèque universitaire pour rendre les locaux aux étudiants dès le lendemain. La halle nous a autorisé à travailler sur le plus long terme, donc à plus s'investir sur les expositions. Il y a moins de frustration si on est capable de proposer les choses pendant un mois. Donc, dès 2018, on a ouvert un deuxième, troisième, quatrième week-end. Le temps que le public s'y habitue, en 2019, on a commencé à avoir une fréquentation plus qu'honorable et fort sympathique sur ces week-ends-là. Et puis, quand on a vu ce qui se passait avec les conditions sanitaires, on s'est dit qu'on aurait forcément des jauges bien plus limitées que ce que permettait autrefois la halle. On montait à peu près en instantané à 3500 personnes à l'intérieur de cette halle. Certes, elle est grande, enfin quand même. Et donc, c'était hors de question, bien évidemment, par rapport aux diverses normes sanitaires. Donc, on s'est dit qu'on allait répartir aussi la présence des auteurs et donc faire en sorte qu'ils viennent chacun leur tour, sur un premier, deuxième, troisième, quatrième week-end. Donc là, il faut dire aussi tout le soutien que les auteurs nous ont apporté en acceptant de jouer avec nous à cette idée que non, ils ne seraient pas tous ensemble, non, ce ne serait pas la grande famille réunie comme d'habitude, mais ce serait des petits bouts de famille qu'on allait réunir à chaque fois. Et ils sont déjà très très contents de venir nous retrouver, de retrouver les publics. Donc, on peut choisir son week-end en fonction de la liste des auteurs, ça c'est une possibilité. On peut choisir son week-end en fonction des disponibilités qu'on a, si, si on a de la belle famille qui vient sur le troisième et sur le premier, on peut venir le deuxième et le quatrième. Enfin, voilà, on peut tout à fait jouer avec tout ça. Et on peut revenir aussi. On peut devenir un aficionado, un addict. On peut revenir d'une semaine sur l'autre. On peut acheter les bandes dessinées des auteurs qui arrivent la semaine suivante pour les lire avant, pour pouvoir en parler avec eux sur la semaine d'après. Non, mais il y a vraiment un éventail de possibilités non négligeables.
Sur tout le mois, combien d'auteurs vous avez contactés? Combien d'auteurs ont répondu présent, viennent?
On devrait recevoir 120 auteurs, ce qui est un record. Jamais on n'a été si loin. En nombre d'auteurs, on est habituellement aux alentours de 90-95. Mais là, avec ce lissage, ça a à la fois donné des possibilités, puis ça a étendu aussi. Il faut dire qu'on s'est réservé quand même pendant une année entière.
Oui.
L'année dernière, on a invité 90 auteurs, aucun n'est venu. Sauf les quelques auteurs locaux qui ont fait une battle de dessin ou quelques petits événements avec nous. Mais donc, on avait cette liste d'invités en stock qu'on avait prévu d'honorer cette année. Et puis, quelques nouveaux qui viennent nous rejoindre.
Donc, ces week-ends sont l'occasion en fait, de pouvoir tous les inviter.
Exactement.
Donc, si les auditeurs ont envie de connaître la liste de tous ces auteurs, évidemment, le rendez-vous de la bande dessinée d'Amien a un site internet.
Oui.
Rendez-vous bdamiens.com et vous pouvez avoir la liste de tous les auteurs classés par tous ou par
week-end par week-end.
Par week-end.
On n'a pas dévoilé encore la liste du dernier week-end pour l'instant. Il y a encore un petit suspense.
Il
n'y en a que deux, mais il y en a beaucoup plus que deux.
Ne vous inquiétez pas, la liste va s'allonger.
Oui.
Alors, on peut peut-être en venir à cette... on parlait de jauge, on parlait de week-end sélectionné. Comment, en fait, on fait cette année pour venir, vu qu'on a une jauge qui est quand même limitée? Elle est limitée à combien cette année?
Oui, elle est limitée à 800 personnes en simultané. Pendant le... Alors, on est aussi à cheval sur l'avant et l'après des annonces gouvernementales. Puisque donc, nous sommes sauvés, pour ce qui est notre capacité à accueillir des publics, par la taille de cette halle qui fait 7300 mètres carrés.
C'est ça.
Donc on respecte là les réglementations de 8 mètres carrés par personne, ce qui nous permet de recevoir 800 personnes dans le public, en plus des organisateurs et des auteurs qui sont présents sur place. Et donc, nous avons pris la décision suivante. Au lieu de faire des journées entières, on divise la journée en deux, 9h, 13h, fermeture de halle, nettoyage, désinfection, et puis 14h, 18h. Et on peut réserver sur Internet, à partir de nos réseaux sociaux ou à partir du site, on peut réserver un créneau ou le matin ou l'après-midi. Donc il est demandé de ne réserver qu'un créneau, l'un ou l'autre. Dans une journée, mais on peut venir, par exemple, je ne sais pas moi, le samedi matin et le dimanche après-midi. Les auteurs aussi feront l'effort d'être présents le matin et l'après-midi, sachant qu'il y aura des publics divers. Et donc, on peut recevoir 4 fois 800 personnes sur un week-end, et ainsi de suite sur le week-end suivant. Donc, on espère, grâce à ça, toucher un maximum de visiteurs dans cette version un peu perlée, un peu filée, un peu originale. Alors on a décidé aussi, puisqu'on estime que le festival n'a pas exactement sa voilure habituelle, que l'entrée serait gratuite. Donc on réserve ses places, on vient et puis on revient gratuitement. Ceci dit, le tarif du festival n'est pas très élevé. Hein, en temps usuel, c'est 3 euros pour une journée et gratuit pour les moins de 25. Donc cette question-là n'est pas une douleur pour nous en tant qu'organisateurs.
Donc il faut juste anticiper un petit peu, dire tout de suite en fait, si les auditeurs ont envie de se dire bah, « tiens, j'aimerais bien y aller ce week-end-là
oui. »,
de regarder et de réserver.
Il le faut parce que là, ça y est, les uns et les autres sont en train de commencer à se préparer et s'aperçoivent qu'il va falloir en passer par là. Ceci dit, l'habitude est prise de plus en plus. Hein. Il n'y a aucun musée en France où on puisse rentrer en fonctionnant autrement, que ce soit le Louvre ou le musée de Picardie. Il faut absolument réserver. Et donc, je crois que le pli est pris. Et ne venez pas directement à la halle, sauf si vous avez eu des informations par les réseaux disant qu'il reste beaucoup de place, mais il y a une vraie prise de risque.
Oui,
si vous faites le déplacement d'un peu loin ou même de pas loin, et que vous réservez votre demi-journée, vous risquez de faire chou blanc contre une billetterie qui ne pourra pas vous autoriser. Là, nous n'y pourrons rien. La réglementation, nous la respecterons bien évidemment.
Donc, bien préciser donc, que cette année, c'est, il faut réserver en fait, son créneau matin ou après-midi, qu'effectivement, on ne peut pas y aller entre 13 et 14 heures, puisque ce sera l'opération désinfection des locaux. Surtout, ne pas hésiter à aller regarder aussi sur les sites internet. Hein, tu me disais en off que vous allez mettre un petit peu, si vraiment il y a des jauges qui sont pleines, que ce sera... indiqué sur, sur les réseaux sociaux et également sur le site. Donc, c'est vraiment pas compliqué. En plus, cette année, c'est gratuit.
Oui.
Donc, autant vraiment prévoir son mois de juin tout de suite et de se dire à partir de, du moment où on connaît son week-end, on a envie d'y aller et on sait quand est-ce que nous voulons y aller, de faire cette, cette réservation en ligne qui est indispensable et obligatoire pour pouvoir accéder au 25e rendez-vous de la bande dessinée et à la Halle Fraissinet. Une entrée, une sortie, je suppose.
Une entrée, une sortie, un parcours, du gel hydroalcoolique là partout où il faut, chaque fois qu'il y a une manipulation, des librairies, mais aussi avec le gel qui permet d'acheter des livres et de repartir avec. Des rencontres de signature avec les auteurs, elles seront un tout petit peu plus distancielles. Disons qu'on on organisera des espaces un peu plus importants entre l'auteur et son lecteur. Et également, nous avons supprimé à l'intérieur de la halle tous les espaces fermés. Il y avait un auditorium, une tente d'animation jeunesse. Parfois, dans une exposition, on montait un escape game avec un toit. Tout cela n'existe plus. Ce qui fait qu'en plus, sur le plan sécurité, cette halle, avec ses 8 mètres de plafond, 12 mètres pour les lanterneaux les plus élevés, on a vraiment l'impression d'être d'un extérieur-intérieur, d'un intérieur-extérieur dans cette halle. Donc, je pense qu'en termes de circulation virale, tout cela peut disparaître assez rapidement.
Oui, c'est vrai que vous avez la chance d'être dans un bâtiment qui est très grand, haut de plafond, donc où il y a vraiment un énorme potentiel. Et là, le cas présent, une belle capacité d'accueil pour le public.
Disons qu'on a vu d'autres manifestations comparables sur le mois de juin qui n'ont pas pu se tenir, alors qu'elles tournent autour du livre et que ce serait envisageable pour ce type de raison, parce que ouvrir ou dépenser beaucoup d'argent pour organiser une manifestation pour ne pouvoir recevoir que 300 400 personnes sur un week-end, effectivement, ce serait extrêmement frustrant. Angoulême, qui s'était proposé de se déplacer fin juin, n'a pas pu tenir cet emplacement. On n'était pas très favorable à cette présence d'Angoulême sur le mois de juin, ni nous, ni nos collègues de Lyon BD, parce qu'il y avait un côté un peu déroutant de les voir arriver sur ce terrain-là. Mais ils n'ont pas pu maintenir la manifestation parce que les frais structurels pour juste un week-end étaient trop importants pour des jauges finalement plus petites que ce que la Halle Fraissinet nous propose. Merci.
On peut vous retrouver sur votre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où on peut avoir toutes les informations avant tout. Des petits programmes papier sont distribués.
Oui, ils sont dans la ville. Alors la distribution est là aussi plus complexe que d'habitude, mais il y en a chez nos partenaires culturels, il y en a dans les mairies de proximité, il y en a dans les tours Perret également. Il y en a. Mais je crois vraiment que la version dématérialisée est la plus à jour qui soit en permanence. Je vois là le programme papier, il a évolué déjà. Et c'est vraiment très précis là, au jour par jour sur les sites.
Donc, les 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens commencent ce week-end, le 5 et 6 juin, et se terminent donc le dimanche 27 juin pour voir cette Halle Fraissinet, ces expositions, ces rencontres, ces librairies, ces auteurs. Vraiment, c'est le mois de juin de la bande dessinée.
Chouette.
Merci Pascal.
Merci.
D'avoir été mon invité dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez des éclaircies du mois de juin qui arrive enfin et du soleil. Et surtout, n'oubliez pas, ce week-end, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ouvrent leurs portes sur réservation de votre billet. Bonne soirée.
Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Au voleur ! À l'assassin ! au meurtrier. Justice, juste ciel. Je suis perdu. Je suis assassiné.
En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.